R22, tout mon R22, antenne, tout mon Radio Brouhaha.
Bonsoir, bienvenue pour cette émission de Radio Brouhaha, enregistrée à Providence, Rhode Island, le 14 avril 2018, dans le cadre de la conférence Sous les pavés. Après l'histoire de la littérature hors du livre au Centre Pompidou et celle de la littérature récente à l'espace Chiasma, nous avons traversé l'Atlantique pour nous saisir de l'invitation lancée par Jacques Neff, que je remercie très chaleureusement, de proposer l'histoire d'une invention, l'invention de Vincennes. C'est donc l'histoire d'un nom, Vincennes, qui n'est pas qu'un toponyme, car l'histoire a quitté son lieu et pourrait même s'être poursuivie ailleurs. C'est un nom décoré, aurait dit Roland Barthes, un nom public, un nom fantasmé, un nom mythologique, le nom d'une expérience, celui d'une invention. Autour de Jacques Neff, professeur à Johns Hopkins, plusieurs générations d'universitaires, d'écrivains, d'écrivains universitaires, d'anciens étudiants, écrivains, cinéastes, Tiphaine Samoyot, Vincent Message, Stéphanie Boulard et Litsa Georgieva, qui forment une longue chaîne de transmission courant de 1971 à aujourd'hui, puisqu'ils ont tous étudié ou exercé à... Alors là, attention, c'est là que ça se corse. Hein, Vincennes, Saint-Denis, Vincennes à Saint-Denis, Vincennes-Saint-Denis, Paris 8-Saint-Denis ou Paris 8. Quant à moi, donc, je suis Lionel Ruffel. Il m'est encore arrivé de répondre par l'affirmative hier à quelqu'un qui me demandait si j'enseignais à Vincennes, alors que concrètement, je n'y ai fait qu'une petite dizaine de pique-niques. C'est donc l'histoire de noms superposés qui se cristallise dans un signifiant magique, Vincennes, qui tout à coup n'évoque plus la commune du Val-de-Marne, limitrophe de Paris, célèbre pour son bois et son château, son parc floral et sa fête du trône, plus tristement célèbre pour son exposition coloniale, son centre de rétention ou ses camps de sans-domicile fixe. Mais autre chose, une expérience, une invention, l'expérience de l'invention sans cesse recommencée. Donc on y va, on embarque, c'est parti.
Yves Morosi, Pierre Domergue, vous nous parlez à présent de l'expérience tentée à Vincennes avec la création d'une faculté pluridisciplinaire.
Oui, le décret portant création d'un centre universitaire à Vincennes est paru aujourd'hui au Journal officiel. Ce centre pluridisciplinaire, on en a beaucoup parlé depuis plusieurs mois, depuis 3 mois exactement, Pierre Domergue, puisque c'est en un temps record qu'en définitive, on a construit cette super faculté à Vincennes.
Oui, effectivement, c'est en 3 mois que la faculté a été construite, ce qui est un record sur le plan de l'organisation, un record sur le plan de la construction, et également un record sur le plan de l'organisation pédagogique. Aujourd'hui, commencent les premières réunions entre étudiants et professeurs. Les professeurs ont déjà prévu un certain nombre de programmes, et les débats commencent aujourd'hui entre les uns et les autres.
Autre chose, Yves Morosi ?
Oui, autre chose, simplement une petite information que je voudrais vous livrer, Jean-Claude Turgeman. Ce matin, il y a eu une conférence de presse des comités d'action de la Sorbonne et les journalistes ont été convoqués à cette conférence de presse. Je vous donne un peu le style. L'un des responsables de la coordination des comités d'action a donné lecture sans commentaire d'un texte intitulé « Le mouvement, les flics, la drogue et le plastique » et après avoir annoncé qu'il ne serait répondu à aucune question.
Voilà, merci Monsieur Domer. Nous reviendrons évidemment sur les développements de notre expérience.
Oui, je crois, un détail sur les comités d'action. Oui. Les comités d'action hier ont organisé une réunion à Vincennes avant l'ouverture officielle. Je dois dire que la réunion était extrêmement pacifique. Il y a une volonté de coopération qui est nouvelle, qui est intéressante. Il y a un refus maintenant de boycotter Vincennes et un désir de participation aux discussions pédagogiques.
C'est justement l'intérêt de l'expérience Vincennes, car je crois que tout se passe bien à Vincennes si tout se passe bien, pas bien ailleurs.
Donc Jacques Neff, je ne sais pas si tout se passait bien à Vincennes, mais on peut peut-être commencer par te demander ce qui se passait à Vincennes quand tu y arrives en 1971.
En fait, j'y arrive en 69, puisque je me suis inscrit en 1969 en thèse de troisième cycle à l'époque, avec Raymond de Bré-Genette, c'est-à-dire dans les locaux neufs. Mais je suis parti un an aux États-Unis, à Yale, de 70 à 71, et je suis en effet revenu septembre 71 comme assistant à Vincennes. Alors ce qui s'est passé, c'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, ça a été très conflictuel aussitôt. La création, sur laquelle je vais revenir maintenant, parce que je trouve que c'est une chose mémorable, la création a été très, très rapide. Et aussitôt, des débats politiques internes, etc., ont fait une histoire très complexe. Alors, ce que je voudrais, quand j'ai proposé ce titre, je pensais précisément au fait que cette rencontre était l'occasion, ici, de mesurer à longue distance ce qui rendait possible un tel moment, c'est-à-dire, et surtout, ce qui a été la conception fulgurante, et le mot est repris très souvent par Hélène Cixous, par tout le monde, la création fulgurante, on vient d'entendre un mot, ça a été construit en 3 mois, on reviendra tout à l'heure brièvement sur la question des locaux, puisque je signale, le Vincennes n'existe plus, les locaux ont été rasés en 1980, comme s'il y avait quelque chose à effacer. Et donc, plus près ?
Je crois qu'ils n'entendent pas bien, donc si tu peux parler plus près du micro.
Cette conception fulgurante, la question est qu'est-ce qui a rendu ceci possible ? Puisque ce qui a été créé le 13 janvier 69 comme centre expérimental de Vincennes, avant de devenir université par Henri VIII, en 1972. Ce n'est pas sorti du néant, c'est manifestement entièrement sorti des événements de 68 et des événements des étudiants, des révoltes étudiantes de 68. Il y a eu une politique audacieuse, l'idée d'un centre expérimental pluridisciplinaire ouvert à tous. Je voudrais insister là-dessus. Il faut penser à ce qu'était la situation en France des universités, de la Sorbonne, avec les cours par année, des traditions disciplinaires très strictes, etc. Ouvert à tous voulait dire ouvert aux non-bacheliers qui avaient travaillé pendant 3 ans, ou aux mères de famille d'un enfant d'au moins 3 ans, ce qui était un geste politique évidemment fondamental, un salarié ou un enfant. Et ceci avec le parti pris qu'on pouvait étudier n'importe quand et que l'on avait toujours accès à des savoirs. Ceci impliquait évidemment une conception nouvelle des savoirs, et ça Deleuze l'a beaucoup commenté avec cette idée que, au fond, chaque aptitude était une aptitude. Sur le point politique, la politique a été très audacieuse, puisque dans l'éclatement de la vieille Sorbonne, en universités diverses, il y avait déjà Nanterre comme une sorte d'annexe de la Sorbonne, dans cet éclatement, il s'agissait de trouver des lieux et surtout des modalités nouvelles. Avant l'invention de Vincennes, il y a déjà une loi d'orientation universitaire relativement audacieuse, et la création du centre expérimental de Vincennes s'inscrit dans cette loi d'orientation universitaire. Et singulièrement, l'idée d'un centre, d'un genre tout à fait nouveau, ouvert, libre, organiquement interdisciplinaire, et ça c'était absolument nouveau à l'époque, lié à ce qui se cherchait de plus novateur à l'époque. Je signale aussi que c'est une politique générale qui a eu l'intelligence, grâce au doyen honoraire de la Sorbonne, Raymond de Lasernias, de proposer sur l'initiative, et en effet, une sorte de signature d'Hélène Cixous, qui rêvait à un centre expérimental. Hélène Cixous voyageait déjà aux États-Unis. Il se trouve que quand j'étais à Yale, il y a eu comme invité Jean-Pierre Richard, Henri Mitran, Hélène Cixous, que j'allais retrouver l'année suivante à Vincennes. Et donc, il y a là une initiative qui est une idée. Un doyen honoraire de la Sorbonne, Lasernias, qui était le professeur d'Hélène Cixous, et finalement, une prise politique très, très rapide. Les lieux de Vincennes dans le bois ont été construits avant que le centre expérimental n'existe. Et on allait utiliser ce lieu nouveau, parce qu'il fallait des lieux nouveaux, pour faire le centre. Et ceci a été relayé aussitôt. Alors, l'idée, ça a été géré politiquement par Hélène Cixous, par Pierre Dormergue, par Bernard Cassen, Dormergue que nous venons d'entendre, et surtout relayé très vite politiquement. Le Parti communiste a eu un certain rôle en disant « d'accord, nous acceptons, mais... » Et d'ailleurs, ils ont eu le premier président était communiste, etc. Donc il y avait un enjeu politique fondamental. Et l'homme décisif dans cela, évidemment, ça a été Edgar Faure, ministre de l'Éducation. Et là, je tiens à lire quelques extraits de la lettre du rapport d'Edgar Faure au président de la République, qui, je vous le rappelle, était le général de Gaulle, qui avait parlé de Chianli. Et il s'agissait de créer un lieu qui, très vite, a été considéré comme un lieu de Chianli institutionnel, d'une certaine manière. Edgar Faure de Gaulle. Mais au moment où la loi d'orientation de l'enseignement supérieur prévoit notamment que les établissements universitaires doivent être pluridisciplinaires et associer autant que possible les arts et les lettres aux sciences et aux techniques, tout en ayant une vocation dominante, il paraissait très souhaitable de saisir cette occasion pour améliorer immédiatement notre enseignement supérieur. faut ajouter que c'est très politique parce que simultanément, il y a la création du centre Dauphine, consacré à la gestion des entreprises, aux finances, aux intratins, et Marseille-Lumini, consacré au sens de la nature. Et Vincennes, c'est-à-dire un lieu un peu particulier, mais il y a cette création politique au fond assez large, surtout quand on sait ce qu'est devenu Dauphine, qui est l'université du business. Dans une perspective expérimentale de diversification, dit Edgar Faure, des enseignements, le centre de Vincennes se signalera par le caractère pluridisciplinaire des grandes options. Un esprit de polyvalence dans chaque département, des possibilités d'obtenir dès la fin du premier cycle un diplôme utilisable et enfin une adaptation constante aux besoins du monde extérieur. Son caractère pluridisciplinaire se manifestera par la présence dans le même établissement d'enseignements qui actuellement encore appartiennent aussi bien aux facultés des lettres et sciences humaines, littérature française, histoire, géographie, philosophie, sociologie, psychologie et langue vivante, qu'aux facultés de sciences, mathématiques, informatiques et facultés de droit et sciences économiques, initiation aux sciences juridiques, sciences politiques, méthodologie juridique. Il est même ultérieurement envisagé de créer un département relatif aux sciences de l'éducation physique. La polyvalence se manifestera dans chaque option qu'ils seront amenés à choisir les étudiants. Ainsi, il s'agissait que de créer un lieu nouveau de croisement des disciplines. Il va de soi que les méthodes pédagogiques utilisées présenteront une grande originalité, c'est dans la lettre de commande, année continue, suppression des examens traditionnels, large appel aux professeurs associés du monde extérieur, ça pourrait être actuel, tout à fait, et encadrement des étudiants par petits groupes. Donc, novation pédagogique, nouveauté disciplinaire. On a là vraiment une invention complète. Et là, je voudrais simplement dire que l'autre caractère exceptionnel de ce moment politique qui sort absolument de 68, qui est une reprise de des événements de mai 68, c'est clair, a été, un, la vitesse, et deux, le fait que c'est une cooptation initiale sur conseil d'experts, mais ces experts réunissaient ce qui se faisait de plus nouveau dans la critique théorique, c'est-à-dire Jacques Derrida, Gérard Genette, Michel Foucault, Lyotard, Michel Serres. On faisait appel, parce que l'interface entre le noyau cooptant et le ministère devait tout de même être validée par des experts, comme Vidal Naquet, comme Georges Canguilhem, Jean-Baptiste Durosel, ou un grand penseur de l'éducation, qui d'ailleurs a créé le département de sciences de l'éducation à Vincennes, Michel de Beauvais, qui avait été le secrétaire de Jean Villard, qui connaissait le fonctionnement des universités internationales. Il y a là un moment de coalition, d'une certaine manière, du nouveau, et pour penser de manière nouvelle, qui est tout à fait exceptionnel. Encore une fois, je voulais parler de cela, parce que sous les pavés, c'est une des choses qui est sortie des pavés, et surtout, nous pouvons nous interroger sur ce qu'il en est maintenant, sur ce qu'il en serait maintenant, d'où viendrait une telle initiative, un tel caractère. Je continue avec deux aspects. La question des disciplines, très rapidement, ouverture à des disciplines qui ont eu un avenir. Par exemple, la linguistique se fait en invitant Chomsky autour de Pierre Encrevet, Nicolas Ruvet. Les mathématiques sont introduites. Deleuze a écrit un très beau texte sur la nécessité des mathématiques. Le chinois, l'arabe, chinois qui est devenu d'ailleurs très vite maoïste pur et dur. La psychanalyse, c'est devenu la cause freudienne, c'est-à-dire Lacan qui n'a été reçu qu'un seul, plutôt qui n'a accepté de venir qu'un seul jour à Vincennes parce qu'il a été pas très bien, il n'a pas été très bien reçu, il faut dire.
Et il y a une retranscription magnifique dans ce volume dans que tu as sous les yeux.
Et donc il y a, mais Lacan était un peu infiniment plus présent pendant toute la durée de Vincennes, Université Paris 8, Vincennes à Saint-Denis, avec évidemment la cause freudienne, Judith Miller, Jacques-Alain Miller, qui était le bastion lacanien en France et dans le monde pendant longtemps. Géographie, version tout à fait nouvelle, puisque avec Yves Lacoste, c'est devenu le lieu de l'invention, il faut le dire, de la géopolitique, qui est maintenant un terme et une discipline spécifique. Donc il y a eu tous ces aspects très, très importants. Passeront sociologie, dès février 70, l'idée d'une licence nationale de sciences sociales. ce qui, en France, était absolument nouveau, sciences sociales. Maintenant, évidemment, le syntagme est totalement accepté, et ceci. Musique. Pierre Schaeffer recommande Evelyne Andréani, qui a créé un département de pédagogie musicale de la musique contemporaine. Et effectivement, ce département a fait énormément pour l'éducation musicale dans les écoles, dans les lycées, avec Evelyne Andréani. Donc on a là une nouveauté totale, et je vais évidemment continuer et achever cette liste sur la littérature. La littérature a été soignée, si j'ose dire. Hélène Cixous, Genette, Derrida tenaient à ce qu'il se fasse quelque chose de bien, et la liste des premiers cooptés, encore une fois, c'est de la pure cooptation, mais par un cercle qui avait quelques idées sur l'avenir et sur l'avenir théorique des choses. Jean-Pierre Richard, Michel Butor, Henri Mitran, Michel de Guide, Vétan Todorov, ils ne sont pas tous restés, ni même tous venus, mais Henri Méchonic est resté, Jean Belmanoël, Georges Rayard, Lucette Finas, Raymond Debré-Jeunette, et ainsi de suite. On a eu une véritable fondation avec une tradition qui est devenue tout à fait, qui est continuée, qui perdure à Vincennes, Saint-Denis, Paris 8, d'associer au département de littérature des écrivains. Ludovic Janvier, Claude Mouchard, Christine Bontalbetti, Tiphaine Samoyo, Olivier Rosenthal, Vincent Message, qui sont ici et qui, il y a une sorte de traduction pour enseigner la littérature. Il est utile de demander à ceux qui la font. Voilà donc une dimension absolument singulière qui me paraît tout à fait remarquable. Et je vais finir en lisant, enfin, sur cet aspect, un texte de Roland Barthes qui décrit ce qui s'est passé du point de vue de la discipline. Le département de français, conformément au principe novateur qui a présidé à la fondation de Paris 8, l'enseignement du français s'y est affirmé et développé dans des voies nouvelles, avec souplesse et invention, mais aussi avec fermeté, sérieux. Professeurs et étudiants ont tout à la fois précisé les concepts et les règles d'un enseignement de la sémiologie littéraire, nous sommes en plein, au sens le plus large et le moins dogmatique de ce terme, et défriché les territoires nouveaux de la science des textes. Je signale que Paris 7 a adopté l'intitulé de science des textes et documents, un peu plus tard, mais enfin, dans cette même rénovation universitaire. Analyse structurale des œuvres, critique thématique, narratologie, approche multidisciplinaire des types de discours, la sémiologie et la critique contemporaine peuvent être encore ici et là contestées, mais elles sont implantées à partir de l'impulsion française dans beaucoup d'universités étrangères, etc. Bon, Roland Barthes fait ce souci, je le rappelle, parce que nous sommes précisément à 50 ans d'un mouvement théorique qui a eu une certaine longue durée et au fond qu'il est tout à fait temps de reconsidérer comme lointain, ou plutôt aussi de reconsidérer ce qui en est encore vivant. Le deuxième et dernier aspect sur lequel j'insiste sur cette création, de cette invention de Vincennes, c'est là très rapidement, c'est cette notion que Hélène Cixous souligne d'hospitalité, c'est-à-dire que Vincennes a été aussitôt créée en relation avec le monde étranger, les étrangers, précisément avec cette idée que l'étranger n'est pas étranger. Par exemple, 70, Mario Suarez est expulsé du Portugal pour raison politique. Il est accueilli avec un poste de prof à Paris 8, enfin à Vincennes, 70, centre expérimental, et ainsi de suite. Et l'université a accueilli ainsi très souvent des réfugiés politiques. Et ensuite, le regard vers l'international a été, un, l'accueil d'étudiants étrangers en très grand nombre, dans une proportion absolument considérable par rapport au reste de la France, 46% d'étudiants étrangers, alors que 12% à cette époque dans certaines autres universités, et surtout également vers l'étranger par des coopérations multiples. J'étais un jeune assistant, 2 ans après, Jean Levaillant, que je tiens à citer parce qu'il était un des fondateurs, me dit, on crée une licence maîtrise à Ouagadougou, est-ce que tu veux y aller, maîtrise de lettres modernes, et constamment Vincennes a fait ces gestes comme ça de coopération internationale, souvent les plus historiquement un peu difficiles, genre avec la Chine encore, à une époque où ce n'était pas tellement ouvert, avec le collège universitaire de Moscou-Saint-Pétersbourg dès 90, etc. Donc cette tradition de la circulation internationale est fondamentale, et dans des conditions aussi très difficiles, par exemple un accord avec Sarajevo en pleine guerre, Tiphaine peut en parler, et Tiphaine en a d'ailleurs écrit de cet aspect. Donc cette dimension de l'international défense des étudiants étrangers, etc., est fondamentale et je pense qu'elle dure.
Merci pour ce premier tableau de Vincennes. Tu as cité à plusieurs reprises le nom d'Hélène Cixous, qui est probablement celle qui a insufflé ce fameux esprit de Vincennes dont on parle régulièrement.
Elle en a eu l'idée.
Et pour retrouver peut-être ce qu'était cet esprit de Vincennes, on va écouter Hélène Cixous par la voix d'Ariane Mouchkine.
Dis-moi, était-ce une vraie révolution ? C'était une révolution de rêve, donc la révolution par excellence, et pas sanguinaire. Un soulèvement avec un Rimbaud pour prophète. Une tragédie comique. Le pays roule sur le dos, on élève des montagnes de pavés. Des dizaines de milliers d'étudiants Prométhée font la pige au vieux dieu. Fin des barbons et des moisis. Chose inouïe dans ce rêve, l'histoire vaudeville. On voit en mai le plus général des généraux, en portant sa statue galonnée sous son bras, détaler et disparaître par la coulisse, côté jardin. Scène invraisemblable en réalité, mais en rêve tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans une autre scène, c'est la Bastille qui tombe en miettes, depuis le temps qu'elle ronchonnait déguisée en université. Enfin, on se la sort bonne. Dans les amphithéâtres, les mandarins périmés sont démandarinisés. Dans la ville délivrée, tous ceux qui étaient muets parlent. Les murs s'égosillent, les rues s'arrachent les pavés des yeux. Les manifs font la mer en chantant « Fais ce que voudras ». Jamais Paris n'a si totalement rimé avec « ri ». Les foules qui avaient égaré le génie du 89 au fond d'un tiroir se réveillent un beau samedi, éclatante de jeunesse. Et naturellement, on voit plus d'un ciel marcher sur la terre. C'est le joyeux désordre de l'humanité. Et il est beau comme un âge d'or après 200 ans de ténèbres. Tout ça avait été prédit et espéré depuis des temps et des temps par l'adorable Alcofridas Nazier. Vous savez, ce grand abstracteur de quintessence de bouffonnerie communément arrêté sous le nom de François Rabelais, cet arlequin qui, rue des écoles, matamorait toutes les églises, les états, les usines et les autres autorités, et à qui nous devons l'élixir de jouvence de la littérature française. D'ailleurs, l'esprit de la divine extravagance soufflait tant de fantaisies et d'élans amoureux car en 68, tout le monde s'était mis à faire l'amour à l'amour, qu'accoururent à la fête les plus vigoureuses et enragées des poètes du monde, tous se tirant des exils et des dictatures qui chourmaient la planète. J'ai vu dans la rue 68 se hâter Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Vassili Vassilikos, Pierre Alechinski et... Ah mais non! Là, écoute, là je t'interromps. Et l'agressivité orgueilleuse, la confusion des haines, l'injustice, l'injure, l'enflure phallique, la casse auto-immunitaire, la brutalité qui blesse le rêve, la 68 hardise, quoi. Tu n'en dis rien? Vraiment? Faut vraiment être toi pour être si totalement... si... Oui, mais le vacarme tyrannique trouve assez de haut-parleurs. Il faut bien qu'il y ait quelques voix pour rendre la parole au « si » d'espérance et au silence souriant. N'essaie pas de me...
Stéphanie, toi, c'est un peu ça que tu es venue chercher quand tu arrives à 98, à Saint-Denis, puisqu'on est à Saint-Denis en 98.
Ouais, alors en fait, là, ça a été coupé juste à la fin. C'est la dernière, les derniers mots, c'est « n'essaye pas de me réveiller ». Et donc, ben voilà, enfin oui, je pense que moi, quand je suis allée à Vincennes en 98, je suis allée chercher la révolution du rêve Cixous, en fait, voilà. Et j'avais découvert Hélène Cixous par la littérature et j'apprends un jour qu'elle enseigne en fait à Vincennes, qu'elle a un séminaire. Et donc je décide d'aller à Vincennes, de voir qu'est-ce que c'est ce séminaire. Et là je suis complètement transformée, bouleversée par ce que je découvre. parce qu'il faut savoir que j'étais étudiante à la Sorbonne.
Personne n'est parfait. Hein.
Voilà. Et la Sorbonne, ce sont des séminaires qui durent une heure, deux heures maximum. Et le séminaire d'Hélène Cixous, ce n'est pas une heure. Ce n'est pas deux heures non plus. C'est six heures. C'est six heures et on a une toute petite coupure au milieu si on a envie de faire pipi ou prendre un café. Parce qu'après, ça recommence. Voilà. Et la coupure, elle a lieu en général vers midi, midi 30. Donc on commence à 9h du matin et on finit à 15h, 15h30. Et puis on discute un petit peu après et on va prendre le thé. Donc en général, la journée, elle se termine vers 17h30, 18h. Voilà. Et donc dans ce séminaire, il se passe beaucoup de choses. Et on peut parler d'une phrase pendant 6 heures. Voilà. C'est ça aussi le séminaire d'Hélène Cixous. Ça peut commencer par un mot. Par exemple, elle arrive, elle attend, nous on discute, et puis d'un seul coup, elle écrit « une âme lit » au tableau. Voilà. Donc, et on tire un fil, ça déroule, et puis c'est un espace donc, complètement différent, c'est un rapport complètement différent à l'enseignement, c'est-à-dire que y a du rêve, il y a du texte, il y a un espace pour la pensée, c'est-à-dire qu'on prend le temps de penser, de faire résonner les mots, de réfléchir. Et ici, le séminaire de Cixous, c'est l'illustration parfaite de ce qu'a pu être l'enseignement, la conception de l'enseignement à Vincennes, tel qu'ont pu aussi le développer Lyotard ou Deleuze, comme ils l'ont expliqué, c'est-à-dire que la classe... l'espace de la classe, c'est un espace, une classe formative, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on crée du lien, c'est un espace pour créer du lien, pour créer des nouveaux concepts, de nouvelles matières, de donner du sens à notre expérience, et c'est ça qui donne la pensée, c'est comme ça que la pensée, elle commence à vivre, en fait. Et donc, c'est un espace où on est, c'est là où on affecte et où on est affecté. Donc, il y a un échange complet et de toutes les manières possibles, dans l'espace d'un cours, d'un séminaire, qui se passe aussi dans quelque chose qui est très très important, qui a été développé à Vincennes, et qui continue à Paris 8, et dans le séminaire d'Hélène Cixous, c'est-à-dire que c'est là où se passe de l'interactivité. Et donc, dans le séminaire de Cixous, comme dans les vidéos qu'on peut voir dans les séminaires de Deleuze ou de Lyotard, il y a une communication, il y a une discussion, il y a parfois interruption, donc par exemple Cixous ouvre le séminaire au dialogue, on peut poser des questions, elle répond, il y a action, réaction, échappée, envolée, voilà. Donc c'est vraiment un espace où la pensée circule, où on ouvre à tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut arriver, et si je parle en Cixousien, tout ce qui peut arriver. Voilà.
Un petit peu. Et qu'est-ce qu'était, donc, parce qu'elle a beaucoup insisté sur cette question du rêve qu'elle fait lorsqu'on lui propose, c'est quand même une histoire très singulière hein, que vous pouvez travailler l'un et l'autre, lorsqu'on lui propose, alors qu'elle est une très jeune femme, de porter ce projet, quel est son rêve à ce moment-là ?
Elle veut quelque chose de complètement, de radicalement, il faut utiliser le mot radical ici, de radicalement différent, c'est-à-dire une structure différente, des programmes différents, un fonctionnement différent, créer une autre expérience de ce que c'est apprendre ou de ce que c'est la curiosité, la découverte, l'échange. Et donc concevoir un espace comme une sorte de laboratoire de recherche où tout est expérience, où on va tester, expérimenter et faire de cet espace d'expérience un espace d'inspiration. C'est-à-dire que d'inspiration et de respiration aussi, parce que c'est là où, en effet, il y a des gens de tout milieu sociaux, de tous horizons. On peut avoir des jeunes de 19 ans comme des mamans de 55 ans qui vont venir et qui vont venir échanger, rêver là, à Vincennes ou au séminaire de Cixous aussi. Et une chose que je voulais rajouter par rapport à ce que Jacques Neff a développé tout de suite là, c'est qu'à Vincennes, il y avait une crèche. Il y avait une crèche pour que les mamans, les bébés Vincennes, pour que les mamans qui avaient des enfants puissent aller étudier et l'espace nécessaire qui leur était nécessaire pour pouvoir aller au cours et pendant qu'on s'occupait de leurs enfants. Il y avait cette crèche. Et au début, l'anecdote est assez drôle, parce qu'au début, quand ils ont conçu très très rapidement, ça a été fait tellement vite, les locaux, qu'ils avaient oublié de concevoir dans les plans d'architecture la crèche. Et d'un seul coup, ils ont dit « Merde, on a oublié la crèche !» Et donc là, il y a eu tout cet échange. Ils ont dit « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont été voir l'architecte. L'architecte dit « Ah mince, alors la crèche, bon, alors je vais la mettre là. Oui, en effet, on va la caser. » Et ils disent « Bon, c'est combien ? 3 millions. » Bon, 3 millions à la crèche, 3 millions. Donc, ils ont dit, bon, tant pis, on va essayer, on va voir avec Faure. Hein, donc, ils sont allés voir Edgar Faure et ils disent, bon, voilà, on a un problème, on a oublié la crèche. Et donc, là, Edgar Faure, il dit, c'est combien? Et donc, il dit, 3 millions. Ah, bon, il dit, attendez une minute, je vais voir. Et puis, en fait, après, il revient et il dit, c'est bon. Donc, et à ce moment-là, ça montre aussi cette anecdote comment, en fait, tout était... Il y avait ce moment où il y avait un espace possible, en fait, de création.
Il y a certains de ces bébés qui sont toujours là.
Oui, Marion Maffray, par exemple.
La responsable du service communication, c'était un bébé à la crèche de Vincennes. Et peut-être quoi, 40 ans plus tard, ouais, oui. elle y travaille encore. Et je crois qu'elle n'est pas la seule.
Ouais. Jacques, tu voulais ajouter quelque chose sur...
Non, sur la crèche, c'était logique, avec le fait que c'était ouvert aux non-bachelières, mères d'enfants d'au moins 3 ans. Mm-hmm. Et surtout, c'était en effet... Le lutte, et quand... il faut quand même se rappeler qu'en 1980, Vincennes a été... Il y a eu une volonté de destruction, c'est-à-dire transporter à Saint-Denis dans des locaux qui étaient l'inverse des autres, c'est-à-dire très fermés. La question de la crèche est revenue tout de suite, et il y a vraiment eu une lutte sur la crèche. Donc sur la pédagogie, très rapidement, revenir, comme c'était ouvert aux travailleurs, parce qu'on n'a plus aux travailleurs, les gens qui travaillaient à plein temps, la plupart, il y avait les cours de soir, 7 à 10, et c'était des unités de 3 heures. Et je dois dire que cette expérience était formidable, et qu'en effet, avoir des unités de 3 heures, bon alors, Sixous faisait une double unité, 3 heures plus 3 heures, mais c'est une expérience pédagogique considérable, extraordinaire. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Quelquefois, c'était complètement épuisant, 3 heures, de 7 heures à 10 heures le soir, l'hiver en particulier. Mais les étudiants qui venaient après une journée de travail, étudiants et étudiantes, étaient là vraiment avec un désir d'y être. Et en même temps, on sentait que c'était fatigant, que c'était pénible, mais c'était un monde à part. Ce monde où on avait la liberté de lire, d'apprendre, tout ça. C'est tout à fait singulier. Ça aussi, je ne sais pas si actuellement ça se fait ou ça.
Bah, on continue à le faire, hein, dans les cours du
voilà,
soir.
À Paris, je sais, mais l'invention de ça a été quelque chose de considérable. Et d'ailleurs, oui, je sais que vous continuez à le faire.
Juste peut-être un petit mot, parmi toutes les inventions disciplinaires que tu as traitées, Jacques, il y a aussi celle des études féminines qu'a porté Hélène Sixous. Alors peut-être un tout petit mot à ce propos.
Oui, je peux en parler vraiment très brièvement, mais c'est vrai qu'il y a un moment où le gouvernement s'est rendu compte qu'en fait, dans tous ces changements qui étaient survenus, ils avaient transformé le doctorat d'État. Et ils se sont dit, bon, il faut qu'on réinstaure quelque chose. Et donc, ils ont voulu remettre en place institutionnellement quelque chose. Et c'est à ce moment-là, Hélène Sixous, elle a dit, bon, ben, je saute sur l'occasion. Je vais, moi, proposer aussi un nouveau doctorat. Et elle a proposé le doctorat d'études féminines. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a créé le Centre d'études féminines à Vincennes. Donc, c'était en 1974. Et donc, à partir de là, en fait, quelque chose s'est ouvert aussi... à Vincennes, qui était un espace pour les femmes, un espace où les femmes venaient pour réfléchir, penser, créer. Parce que Hélène Sixous avait été très sensible à tous ces problèmes de misogynie dans le milieu enseignant, mais aussi ailleurs. Hein, et elle avait éprouvé la nécessité, le besoin de créer un espace commun. Juste une petite chose, c'est que Une toute petite, c'est que en fait, elle a nommé ce département études féminines par défaut, parce qu'au départ, en fait, elle voulait intituler ça poétique et axiomatique des différences sexuelles.
Ce qui est moins facile. Voilà. Institutionnellement.
Institutionnellement, c'est plus difficile. Et elle devait créer ça avec Jacques Derrida. Et puis tous les deux, ils se sont dit, mince, ça va jamais passer. Poétique, ça passera pas. Et axiomatique, encore moins. Et donc voilà, donc ils se sont dit, bon, alors hop, on change de direction, on se rabat sur quelque chose qui est beaucoup plus reconnaissable par le gouvernement, et on va mettre études féminines, voilà, pour copier, calquer sur le modèle américain des Women's Studies, en fait. Mais ce n'était pas le titre qu'aurait initialement voulu Hélène Cixous, parce que études féminines, c'est complexe, enfin, ça trace pas vraiment ce que Women's Studies, linguistiquement, etc. Voilà, il y a d'autres choses qui sont en jeu que poétique et axiomatique des différences sexuelles.
Oui, Jacques. Un mot sur études féminines. Ce dont j'ai parlé, un mot sur études féminines, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, a été immédiatement conflictuel vis-à-vis du ministère. Mmh. Et c'est-à-dire qu'études féminines, il a fallu, et là, Hélène Cixous a développé une énergie et une autorité tout à fait remarquable, mais il fallait constamment renouveler les autorisations. Ouais. Il se trouve que pendant une certaine époque, j'étais chargé de ça comme vice-président scientifique. Et au ministère, j'ai eu affaire à un expert qui a dit « études féminines, études féminines. Est-ce qu'il y a des études masculines ?» Mm. Autant dire que c'était une lutte.
Oui,
c'était
et c'est vrai qu'il...
Et ça a été une lutte de plus en plus forte dans toute cette histoire.
C'est vrai qu'ils ont essayé plusieurs fois d'annuler le DEA, d'annuler le doctorat.
C'était ça, c'était au cours, au cours de négociations de défense que
Et il y a eu ce moment où, en fait, quand Raymond Barre a voulu annuler le DEA d'études féminines, il y a eu un mouvement international, et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le FACS. Et donc, du monde entier, tous ceux qui ont voulu soutenir le Centre d'études féminines et le DEA ont inondé le gouvernement de fax. Voilà, donc l'équivalent des emails d'aujourd'hui. Mais...
Alors, on va continuer sur la question un peu rituelle. C'est toi, Tiffaine, c'est en 94. Qu'est-ce que tu trouves quand tu arrives à Saint-Denis?
Oui, donc effectivement, c'est déjà Saint-Denis. Donc par rapport à ce qui a été dit précédemment, je voulais aussi signaler que Hélène Cixous, elle a déjà voyagé aux États-Unis dans les universités nord-américaines lorsqu'elle a cette idée du centre expérimental de Vincennes, en tout cas de cet esprit qu'elle veut insuffler à ce centre expérimental, et qu'elle l'a beaucoup trouvé aussi dans les séminaires qui se faisaient ici, sur le continent nord-américain. Donc c'est un modèle qui peut paraître, exister depuis un certain temps, qu'on essaye maintenant d'appliquer un peu partout, mais elle l'importe, en fait, quand même, des États-Unis, donc je pense que c'est important de le rappeler. Donc en 1994, on est exactement à mi-chemin, on est à 25 ans de 68 et à 25 ans de maintenant. Et donc, effectivement, moi, je trouve beaucoup des membres fondateurs du centre expérimental sont encore là. Hein, donc, Hélène Cixous, bien sûr, Michel Deguy, Henri Méchonic, toutes sortes de gens qui ont été, toutes sortes de personnes qui ont été importantes pour moi. Mais je trouve aussi quelqu'un comme Jacques Neff, qui dirige ma thèse et qui me donne beaucoup de liberté que je n'avais pas avant, liberté de penser et d'agir. Parce que ce que je trouve d'abord à Vincennes, c'est un terrain. C'est un terrain plus qu'une institution, un terrain d'action. Et ce sur quoi je voudrais insister, parce qu'on ne l'a pas encore peut-être dit, c'est un lieu évidemment un peu magique, aujourd'hui presque légendaire, un peu folklorique. C'était un lieu de dissensus, c'était un lieu de conflit aussi permanent. Et que c'est dans ce conflit permanent, qui était aussi un conflit politique, idéologique, disciplinaire, eh bien, il y a de la pensée qui surgit du dissensus, hein, évidemment, souvent beaucoup plus que du consensus. Et donc, moi, je me souviens à l'époque, déjà en 94, on se battait pour quantité de choses encore, y compris pour essayer de rétablir la crèche à Paris 8. Mais en effet, pour défendre le centre d'études féminines, pour défendre les UV de 3 heures, pour défendre l'accès de l'université aux non-bacheliers, pour défendre l'accès de l'université aux sans-papiers, avec des crises quand même très importantes régulièrement. Hein, en particulier, à un moment, on avait accueilli tellement de monde que ça a créé une crise qui a fait qu'après, on a moins pu accueillir. Enfin, voilà, et aujourd'hui, on est dans une crise aussi importante des universités, et c'est parce que c'est un lieu de conflit que c'est aussi un lieu qui bouge, un lieu d'action, un terrain. Alors, je voudrais dire aussi que j'ai rencontré, bien sûr, des figures tutélaires pour moi, hein, pour pas dire des maîtresses ou des maîtres, mais j'ai aussi rencontré des personnes qui sont venues après, que j'ai eu la chance de former, et en particulier ma première étudiante à Paris 8 en 1995, c'est Tangam Ravindranathan, donc l'organisatrice de ce colloque. Donc, moi, puisqu'on a, cette séance était de l'ordre un tout petit peu de à la fois du dialogue et de la performance. Donc, chacun a préparé quelque chose. Donc, moi, j'ai écrit un texte pour cette occasion. Je vous rassure, c'est un texte assez court. Donc, voilà, il fait quatre petites pages. C'est un texte personnel qui parle de ce que c'est que d'être un enfant de 68 ou un enfant de Vincennes, puisque vous allez l'entendre, il y a plusieurs manières d'être un enfant de 68. Donc c'est un texte personnel, intime, mais auquel j'ai voulu donner une certaine généralité en réfléchissant à ce que peut être le juste après. La notion temporelle, ou la catégorie temporelle peut-être, hein, du juste après. Et voilà, cette généralité vient du fait que chacun a ou peut se constituer par rapport à l'histoire, ou par rapport à l'événement, par rapport à l'expérience, son propre juste après. Voilà. Je l'ai fait parce que, effectivement, j'ai écrit sur 68. J'ai écrit un roman sur 68 qui s'appelle Météorologie du rêve, mais plutôt que de lire ce roman, où j'ai écrit aussi un roman sur une expérience que j'ai faite à Paris 8, qui est en effet cet enseignement à Sarajevo dont Jacques Neff a parlé, mais plutôt que de lire quelque chose qui avait déjà été écrit, j'ai préféré écrire quelque chose pour cette circonstance. Donc voilà, le texte s'intitule « Juste après ». Le sentiment d'être venu après. Après 1968, après les événements, après tout événement peut-être, ne me vient pas d'être né après, mais d'être né juste après. Ma date de naissance, en juin 1968, est devenue pour moi la date du juste après, de l'histoire manquée ou du manquement à l'histoire. J'en ai fait un symbole, puis un roman. Il y a une différence entre symbole et roman. Le symbole est une marque, ici une date, qui est aussi celle de ma naissance, qui représente de façon concentrée autre chose, ce juste après de l'occasion manquée, qui est en même temps un tout contre. Certaines circonstances, une prématurité ou une conception plus précoce, auraient aisément tout changé. Je compensais d'emblée ma néothénie anthropologique par une post-thénie historique, et cette compensation, loin d'équilibrer mon être, me plaçait dans le manquement au lieu du manque. J'étais là sans y être. Cette lacune d'être tient au fait que le juste après n'est pas une différence temporelle permettant de signaler un écart, une distance, un face-à-face, une vision décalée ou surplombante. Le juste après indique une connexion et un loupé. Ça vous laisse toute la vie dans la situation où l'on se sent à l'instant où l'on arrive sur le quai et que son train s'éloigne. J'ai raté le train, me dis-je, essoufflé, happé par un vide et par la sensation fugitive qu'il n'y aura plus jamais de train. Arriver juste après le départ du train, soit être en retard. On n'est pas sur la photo. On n'est pas dans le cadre. Où est passé le temps qui sépare le moment juste du juste après? C'est un laps, un tout petit laps, un lapsus. D'un bout à l'autre du sens du mot lapsus, qui signifie d'abord écoulement, glissement, puis erreur involontaire. Si la première définition du retard est le fait d'arriver après le moment attendu, sa deuxième définition en fait le temps qui s'écoule entre le moment où quelque chose arrive et le moment où cette chose aurait dû arriver. Le retard serait donc à la fois le délai et le nom même de ce laps éludé pendant lequel, littéralement, l'histoire aurait pu ou aurait dû advenir et se remplir autrement. Mais il y a aussi un sens musical du retard. C'est un son dissonant, étranger à un accord donné, mais préparé à la même voix par un son identique faisant partie de l'accord précédent. Dans ce cas, le juste après ne serait que le retard de la scène, sans être véritablement en retard. Dans tous les cas, avant d'immobiliser un instant, il se produit quelque chose qui dérègle non pas le temps, cela n'aurait pas de sens, mais l'occupation du temps, c'est-à-dire le rapport entre l'espace et le temps, et qui imprime sa marque sur un sujet. Il y aurait donc une justesse du juste après qui ne serait pas celle de l'heure juste, une résonance anticipée du retard dans l'heure juste. Explorer les figures du temps de toutes les manières possibles a été ma façon d'être à l'écoute de l'accord précédent, dont il fallait à la fois maintenir la justesse et la dissonance. C'est là, sans doute, que le roman commence. Il a commencé par la nostalgie, que je définis non comme le regret de ce qui n'est plus, mais comme le regret de ce que je n'ai pas vécu parce que naît juste après. Le regret de ce qui aurait pu avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. J'ai alors eu, comme d'autres, une tristesse de l'été qui s'installe et des étreintes qui cherchaient les brûlures de mai. Je me suis souvenu de la manière dont on s'asseyait sur les estrades, un pied posé sur le rebord et l'autre jambe qui se balançait dans le vide. Je me suis souvenu aussi de la parole qui faisait des boucles. J'ai alors inventé l'histoire d'une jeune femme qui rencontrait 20 ans plus tard un photographe de 20 ans de plus qu'elle et qui avait pris une image d'une femme enceinte dans la rue Gay-Lussac. Cette image avait beaucoup circulé. Je m'inventais ainsi dans l'œil du photographe et dans le ventre de ma mère. Ce roman, je l'ai appelé « Météorologie du rêve ». C'est dans un sens mon seul vrai roman, et il est assez raté parce qu'il ne sait pas qui est son personnage, parce que son personnage est à la fois vraiment dedans, mais trop dedans, et vraiment dehors, mais trop dehors, plus de 20 ans plus tard. Il n'a pas su saisir ce « juste après », qui est peut-être pourtant précisément la temporalité de la naissance. Mai a commencé bien avant mai, même bien avant mars de la même année. Il a commencé dans Orphée noir de Sartre et dans l'enfouissement coupable de la guerre d'Algérie, son euphémisation sous le nom d'événement, qui invite à repenser l'idée même d'événement. Il a commencé dans Masculin-féminin de Godard et dans La fatigue des femmes. Il a commencé dans l'énergie qu'ont mis certains enseignants, en particulier des étrangers ou des transfuges sociaux, à inventer de nouvelles façons d'enseigner. Il a commencé bien avant parce qu'il était un rêve et que le rêve ne concerne que l'avant ou l'en avant. Quelle part de cet avant se maintient-elle dans le juste après ? Comment les deux définissent-ils l'événement, le présent de l'événement, le présent du pendant ? Pendant, le temps se suspend. Comme le dit Jean-Luc Nancy dans un texte que Laura Odello a cité avant-hier, pendant un temps, bref comme il se devait, le temps de 68 fut moins chronos que kairos. C'est un temps irruptif et disruptif où rien ne peut se fixer ni s'autoriser, ajoute encore Nancy. C'est alors le juste après qui continue de porter l'événement en avant. C'est l'histoire des LIP et celle du centre expérimental de Vincennes, qui parviennent sans doute à maintenir deux temporalités en même temps, celle du chronos et celle du kairos. Le juste après est la mémoire plus l'avenir, l'avenir chargé de mémoire et d'image, une puissance verbale et plastique, le dire plus que le dit, les positions plus que les impositions. Le juste après qui suit le pendant, l'immersion dans l'action et la fabrique de l'événement commun, n'est pas le même que le juste après de l'occasion manquée. Et pourtant, le juste après de l'occasion manquée ouvre un autre rapport au temps, qui est celui de la dette à l'égard de l'événement et de sa fabrique continuée. Dans mon cas, ce fut une dette impayable, car elle se confond avec la dette que l'on a à l'égard de sa mère. Mai 68 est une part de ma langue maternelle. Mon roman personnel, l'histoire que je me raconte, sont ceux de la dette inquantifiable que je me sens par rapport à cette double langue maternelle. Dès lors, ce temps suspendu de mai, ce temps de la communauté réalisée parce que l'être ensemble compte plus que l'être individu et que chacun en devient impersonnel, rejoint le temps suspendu où, sur le point d'entrer dans le chronos, on éprouve sans doute le kairos, duquel à divers titres on conserve la nostalgie toute sa vie, de se sentir dans le ventre de sa mère. Il le rejoint et se confond pour moi avec lui. Il y a plusieurs manières donc d'être des enfants de 68. On peut en avoir été des acteurs, on peut avoir expérimenté plusieurs manières d'être acteurs. On peut aussi être enfant de 68 parce qu'on est né en 68 ou juste après, et que l'on est alors littéralement sans passion, sans réaction, avec la dette. Beaucoup de mes aventures témoignent de la volonté de répondre à cette dette, associée à l'expérience de la conjonction des temps et à l'expression de cette langue double, ce qui la rend, cette dette, plus positive ou la tend vers l'avant. Parmi ces aventures, il y a bien sûr celle de Paris 8, et de la foi dans son hospitalité joyeuse où le partage des langues tient une place centrale. La réflexion sur la traduction, je l'ai inaugurée là, parce que la traduction était, dans cet espace, notre langue commune. Je la poursuis jusqu'à aujourd'hui. C'est une question pour laquelle l'enjeu de la dette est central, ce que Derrida a montré maintes fois. C'est une question aussi dont l'enjeu est bien la transmission d'une petite différence, d'une différence par lapsus, par léger retard.
Merci Tiffane, c'est très bouleversant ce texte, parce que tout d'un coup je comprends que quelqu'un comme Vincent ou comme moi, qui sommes venus à Paris 8 pour toi, puisqu'on vient souvent pour quelqu'un, et on venait aussi chercher exactement ça, cette question de la pluralité des langues, et donc le voir apparaître comme ça, c'est vraiment très surprenant et très sidérant, disons, cette question de la langue maternelle. Et de, peut-être tu peux ajouter quelque chose là-dessus, Vincent, pour justement dire ce que toi tu venais chercher en venant à Paris 8 en 2007.
Oui, c'est ça. Bah, comme j'étais pas parfait non plus, j'étais également à la Sorbonne. Mais j'étais aussi à Normale Sup. Et à Normale Sup, en entrant, on m'avait quand même dit que je pouvais pousser toutes les portes que je voulais, c'est-à-dire faire un peu de chinois, un peu de macroéconomie, etc. Mais dans la foulée, j'avais l'impression que ça n'allait être qu'une sorte de temps de post-adolescence, et qu'au contraire, ensuite, on allait me demander de me spécialiser et me fixer un certain nombre de limites. Ce qui, pour moi, était une forme de mutilation. Je me définissais vraiment comme quelqu'un du côté de la multiplicité. C'était là-dessus que j'avais envie de travailler, sur le pluralisme. Et du coup, c'était pas possible de pas aller chercher, de pas suivre cet objet de recherche partout où il pouvait m'emmener. Donc effectivement, quand j'ai pris connaissance du travail de Tiffane, je me suis dit que ça allait probablement être la bonne personne. D'abord parce qu'elle était active dans plusieurs champs. Elle était critique littéraire, elle était essayiste, elle était romancière, elle était traductrice. Et aussi parce que j'avais un corpus qui était un petit peu fou, qui était L'homme sans qualité de Musil, Terra Nostra de Carlos Fuentes, qui a été cité, qui était un proche de Cixous. Je travaillais aussi sur Pynchon. Et je pense que pas mal de directeurs de recherche m'auraient dit « c'est beaucoup, c'est trop ». Et elle m'a dit « non, ce que vous allez faire, c'est on va aussi travailler ensemble sur Édouard Glissant et sur Salman Rushdie. Et ce sera mieux comme ça. » Et voilà. Donc ensuite, il y avait une promesse qui était la deuxième grande raison, outre la présence de Tiffane qui m'a fait venir, qui était celle d'enseigner sur ce qu'on voulait, vraiment. Et je crois qu'il y a énormément de doctorants qui ne se considèrent plus comme des enfants quand ils commencent une thèse ou un PhD, et qui ont donc envie d'être déjà des gens responsables, actifs, définissant leur propre sujet. Et ça, c'était une possibilité qui était vraiment donnée. Par exemple, je me rappelle très bien que mon premier cours, c'était sur la question des labyrinthes. Les labyrinthes, ça allait être Kafka, Borges, la bibliothèque labyrinthe de Musil ou Umberto Eco, mais aussi des films de Mankiewicz et de Lynch et de Kubrick, mais aussi des choses sur les jardins labyrinthes, et que ça posait aucun problème, alors que c'était le tout premier cours que je donnais, et que, pareil, ça pouvait apparaître un petit peu déraisonnable. Une autre chose qui m'a tenu à cœur assez vite, c'était que moi je conçois vraiment l'université comme devant être très ouverte sur le reste de la société, dans une circulation très fluide. Et ça a déjà pas mal changé, heureusement, mais à l'époque encore, c'était quand même pas évident, par exemple, pour les écrivains de se sentir à l'aise à l'université. C'était mon cas, j'écrivais et je me sentais pas forcément à l'aise dans le monde universitaire, mais je savais aussi que c'était le cas d'autres écrivains qui avaient l'impression qu'ils n'y accéderaient qu'une fois qu'ayant écrit 10 ou 15 livres, on leur consacrerait une journée d'études où ils seraient assis au fond et vous aurez peut-être le droit à un moment donné de réagir à ce qui était dit d'eux. Alors on n'était pas seul à faire ce travail, Dominique Viard qui est dans la salle, qui avait aussi commencé par exemple avec d'autres à faire venir des écrivains, mais c'est vrai qu'on a considérablement intensifié ça. Et moi, quand j'ai connu Elitza, par exemple, elle suivait un cours que je donnais où on faisait venir, pas seulement d'ailleurs des écrivains, mais des critiques, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, pour qu'on prenne conscience en fait que ce monde du livre n'est pas seulement une chaîne de création de valeurs économiques, mais est une communauté, peut former un collectif, a des combats à mener en commun, mais que ça implique que chacun se sente à l'aise chez les autres, c'est-à-dire que les universitaires se sentent à l'aise pour parler de leurs livres dans des festivals ou en librairie, mais aussi que des libraires ou des écrivains se sentent à l'aise sur des campus, au lieu que l'écriture soit une sorte de loisir un petit peu honteux qu'on dissimule parce qu'on n'est pas tout à fait aussi doué que Marcel Proust ou Franz Kafka. Une autre chose très marquante pour moi, c'était la véritable horizontalité dans les processus de décision. C'est-à-dire que faut figurer une table autour de laquelle sont réunis les enseignants et les doctorants ont voix au chapitre. Et leur parole est écoutée et c'est la pertinence des arguments et c'est la rationalité qui compte ou la blague qu'on arrive à faire et qui emporte l'adhésion. Mais en tout cas, c'est jamais la parole n'est minorée parce qu'elle viendrait de quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de moins expérimenté. Ce qui est exactement l'inverse de ce que Cixous raconte sur Nanterre avant mars 68, c'est-à-dire les professeurs se réunissent seulement entre eux et ils n'ont aucun contact avec les plus jeunes de leurs collègues, etc. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très important. Et je pense que c'est parce que la même chose se joue aussi dans nos enseignements. C'est-à-dire que, bon, il y a eu Rancière à Paris 8 qui a théorisé l'égalité des intelligences. Faire de l'interdisciplinarité, comme l'a beaucoup souligné Jacques, ça implique de se mettre dans une position d'inconfort, ça implique d'être à l'aise avec ses ignorances. Et vu le public étudiant qu'on a, très hétérogène, avec des gens savent plein de choses que nous on ne sait pas, mais à l'inverse ils ont aussi des grandes lacunes, et ben, cette question d'être à l'aise avec ses ignorances est décisive. Je crois que ce n'est pas un hasard si quand Pierre Bayard en a fait un livre, Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, ça a pris comme une traînée de poudre. Je pense parce que la littérature est quelque chose d'intimidant, et à Paris 8, elle pouvait apparaître en éclatant cette idée de qu'est-ce que c'est que lire un texte, par quelle pratique ça peut passer. Brusquement, beaucoup plus de gens pouvaient se sentir légitimes pour le faire.
Pierre Bayard, qui était aussi enseignant à Paris 8.
Qui l'est toujours.
Et qui l'est toujours, oui.
Juste, Stéphane, il y a maintenant 20 ans, tu avais été chargé à leur jeune enseignant de coordonner un petit numéro de revue sur les 30 ans. Et tu avais interrogé Méchonic et plein d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot de ce moment-là?
Oui, alors ça ramène encore à ma date de naissance, parce qu'il se trouve que j'étais la première maître de conférence à Paris 8 à être née en 68. Alors le président avait décidé de me confier une part de l'organisation des 30 ans, qui était aussi mes 30 ans donc, des 30 ans de Vincennes, mais donc à Saint-Denis, puisqu'on était déjà à Saint-Denis. Alors à cette occasion d'ailleurs j'avais vu un documentaire que peut-être certaines et certains d'entre vous ont vu, mais il est très difficile à voir, qui est un documentaire qui a été fait dans les années 70 qui s'appelle Le Ghetto Expérimental, pour qualifier donc le centre expérimental de Vincennes, le Ghetto Expérimental, et qui est un film qui a été interdit de diffusion parce qu'on y apprend comment fabriquer un cocktail Molotov et que donc du coup on peut pas le mettre entre toutes les mains ou sous tous les yeux.
Il est sur YouTube.
Ah bon, il est sur YouTube. D'accord. Mais ils ont peut-être sauté.
Mais il y a 20 ans, il n'était pas sur YouTube. Ouais. Hein, il y a 20 ans.
Puis ils ont peut-être fait sauter ce passage. Où... Enfin, ce documentaire est saisissant parce qu'on y voyait tous les professeurs qui enseignaient encore dans la situation, dans leur situation d'enseignement au centre expérimental, avec des expérimentations, notamment en théâtre, tout à fait saisissantes. Et donc, effectivement, j'avais interrogé un certain nombre de personnalités sur leur expérience, sur ce qu'était resté Vincennes pour eux, donc 30 ans après. Et l'accent dans tous ces témoignages que j'avais recueillis était mis essentiellement sur deux choses, je dirais. L'incroyable liberté, hein, qui est celle dont tout le monde parle ici, mais aussi, et je pense que ça va peut-être avec, l'incroyable désordre. Et ce désordre, c'était un désordre qui touchait les locaux, le fait que très très vite tous les meubles avaient disparu, parce que dans cette espèce aussi de folie des grandeurs qu'avait eu Edgar Faure, ces bâtiments qui étaient sortis de terre en 3 mois avec un architecte, qui étaient meublés avec des très beaux meubles Knoll International, etc. Là, évidemment, tous ces meubles ont disparu, hein, donc très très vite il n'y avait plus de mobilier, le mobilier se retrouvait dans le bois, etc. Donc ce désordre touchait donc les locaux, les praticables, on va dire, de ce théâtre qui était le centre expérimental de Vincennes, mais aussi la parole, bien entendu. Et donc l'accent était beaucoup mis dans ces témoignages sur la manière dont la parole était constamment renvoyée, interrompue, captée, rendue, voilà, avec aussi cette part de violence ou de dissensus dont je parlais tout à l'heure et qui est tout à fait perceptible dans les témoignages de cette époque.
C'est ce que dit un peu Foucault, hein. Une des raisons pour lesquelles il n'est pas resté, c'est qu'il se trouvait un peu trop chahuté dans le développement de sa pensée à Paris 8, un peu trop interrompu. Et à l'inverse, quand il est passé au Collège de France, il n'avait plus de retour de la salle, il ne savait pas ce que les gens en pensaient et ça le gênait aussi terriblement.
Barthes a exactement la même expérience.
Et si je peux reprendre sur ce que tu dis, Tiffaine, à part du désordre, Bourdieu, qui était aussi introduit, sa pensée avait été présentée à Vincennes aussi, il disait qu'il faut toujours un peu de bordel parce que sinon on s'ennuie beaucoup. Voilà.
C'est juste. Je crois que Jacques, que tu voulais lire un petit texte, sur la pédagogie. On va faire un petit temps sur la pédagogie.
Oui, enfin, c'est un texte que je propose comme métaphorique à propos de l'espace. C'est-à-dire que, revenons alors cette fois à Vincennes. Ça a été construit en 3 mois, cela a été dit, mais ça a été construit d'une manière absolument ouverte. Et c'était une sorte de chandelier horizontal, avec des allées qui se croisaient, tout se croisait, 2 étages, c'était disposé comme une sorte de lieu où on ne pouvait faire que se rencontrer, on ne pouvait faire que se croiser, etc. Et ensuite, comme Tiffaine vient de le dire, c'était luxueux, mais très vite, ça a été ravagé, vidé, et on a été dans la misère, très vite, puisque c'était tout de même, il y avait une hostilité gouvernementale qui a amené d'ailleurs au déménagement à Saint-Denis. Mais cet espace, justement, on le vivait pédagogiquement. 3 heures, c'était long, avec des tables cassées, des choses, mais il y avait la foule. Et je voudrais lire un texte, alors, cette fois écrit pour les 10 années de Vincennes, en 79, c'est-à-dire l'année où on savait déjà qu'on allait être détruit et que Vincennes allait être envoyé et réduit à Saint-Denis. Heureusement, il y a eu 81, la gauche, Mitterrand, et à ce moment-là, Vincennes-Saint-Denis a été à nouveau étendu avec une très belle bibliothèque. Et donc c'est un texte de Jacques Nichet qui enseignait le théâtre à Paris 8, à Vincennes, et qui d'ailleurs est devenu ensuite un directeur de théâtre nationaux à Toulouse, à Montpellier, etc. Et Jacques Nichet écrivait ceci à propos des cours de théâtre. Ça s'appelle, donc dans ce numéro de la revue Littérature, je rappelle que Littérature a été créée à Vincennes en 71, au même moment où Poétique était créée. Et donc, salle 215. Salle D215. Une porte, à peu près 20 mètres carrés au sol, un tableau noir, chaises et tables, quelques ampoules au plafond. On pourrait y enseigner la littérature, la linguistique, les mathématiques, le droit, mais le théâtre. Pas de scène, ni de coulisses, pas de cyclorama, ni de projecteur. Il nous faudra aller à l'essentiel et regarder notre salle comme un simple espace, une matière première théâtrale. Découvrons notre espace. Repoussons contre les murs, chaises et tables. Nous ne trouvons toujours pas dans un théâtre, mais nous ne sommes plus tout à fait dans une salle de discours. sans doute entre les deux, on bascule, le jeu commence. Il a suffi d'un peu de vide, tout va s'engouffrer par là. Le vide n'est qu'un moyen de connaître le plein. Nous nous entassons souvent à plus de 50 dans un espace aussi réduit, étudiants de lettres ou de théâtre, jeunes, plus âgés, étrangers ou français. Peut-on effacer tant de présences? Nous allons jouer de nos présences, nous les offrir à nouveau dans l'espace libéré, nous les représenter, nous découvrons ensemble une autre matière première théâtrale, nous-mêmes. Et conclut ce texte, voilà que l'exercice d'école devient forme d'expression, comme en peinture une étude, et ne se limite pas à une technique fermée sur elle-même. Pourquoi ne pas exposer au regard toutes les études préparatoires? Le matériau de la représentation n'est-il pas fait de nos essais, de nos errances, de nos erreurs et de nos rêves? Jacques Nicher écrivait ceci en 79, au moment où Vincennes allait être déménagé, et cela a continué.
Du coup, là, on était un petit peu dans la théorie de la pédagogie. On va passer aux travaux pratiques. On a décidé, pour ne pas rester trop abstrait sur la question de la pédagogie, de vous proposer quelque chose comme une reconstitution, la reconstitution d'une soutenance de diplôme, et une véritable soutenance de diplôme, puisque c'est la soutenance de diplôme d'Elitsa Garangeva, qui est ici, qui est une ancienne étudiante du master création littéraire, qui est une des dernières inventions de Saint-Denis, parmi d'autres, même pas le seul. Et c'est pratiquement exactement ce qu'elle nous a présenté le jour de sa soutenance de M2 pour nous parler de son texte qui est ici et qui est depuis devenu un livre aux éditions Verticales. Donc on va faire comme si on était à ce moment-là, quoi.
Elitsa, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passées vos deux années de master?
Oui, bonsoir à tous les professeurs et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs libres. Alors, je vais vous présenter comment j'ai développé mon travail que j'ai intitulé « Les cosmonautes ne font que passer ». Alors, en fait, au départ, je voulais pas du tout faire un roman, ça devait être un film. Donc, c'est une sorte de roman accident. Voilà, tout commence en Bulgarie, en fait, pays inconnu en Europe de l'Est où j'ai été conçue. Et en fait, je me suis rendue dans mon école primaire pour faire les repérages de ce film que je n'allais pas réaliser, mais ça, je ne le savais pas encore à l'époque. Donc, je vous les ai apportés. Je vais vous montrer quelques images et peut-être quelques photos personnelles, puisque c'est un récit autofictif, si ça ne nous gêne pas. Et puis, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, mon école, comme vous pouvez le lire sur l'image, s'appelle Yuri Alexeyevich Gagarin, qui était, comme on le sait, le premier homme envoyé dans l'espace en 1961, le 12 avril, il y a 67 ans. Voilà, et en fait, c'est aussi le premier à revenir de l'espace, puisque d'autres ont eu moins de chance que lui. On pourrait citer par exemple la chienne Leica, qui, elle, est morte de stress, et aussi le petit singe Albert 1, qui, lui, s'est étouffé. Mais Yuri Gagarin a eu beaucoup plus de chance et voilà, une fois qu'il a fait ce premier vol spatial et quand il a complètement repris ses esprits, il est venu planter un sapin dans mon école. C'était une sorte de rituel communiste que faisaient les cosmonautes quand ils avaient du temps libre. Et donc là, si on se concentre sur l'image, on peut voir à droite la branche du sapin dépassée. Donc c'est le sapin de Yuri Gagarin. Et d'ailleurs, il n'était pas seul. Enfin, après lui, il y a eu d'autres cosmonautes qui sont venus planter des sapins. Par exemple, Valentina Tereshkova, qui était la première femme envoyée dans l'espace. Puis Georgi Ivanov, qui était le premier bulgare. On ne le dit pas assez. Donc voilà, et tous ces cosmonautes ont fini par planter une mini-forêt qu'on appelait l'allée des cosmonautes. C'est là qu'on faisait nos exercices physiques ou qu'on fumait nos premières cigarettes, selon les époques. Voilà, et moi, donc, en me promenant dans ces lieux de mon enfance, j'ai décidé qu'en fait, j'avais envie de non pas de faire un film, puisque voilà, il n'y avait rien de très intéressant à filmer, mais de créer un récit biographique sur Yuri Gagarin, qui n'allait surtout pas être une biographie classique, donc ça devait être plutôt une sorte de science-fiction expérimentale. Voilà. En fait, j'ai un petit peu organisé cette présentation par les missions initiales et leurs échecs, puisque c'est un peu entre ces deux pôles que l'écriture de ce texte a évolué. Donc, la première mission, c'était de ne pas écrire un roman.
Alors, en fait, à travers cette biographie, j'avais envie de parler un petit peu du rêve collectif qu'il y avait dans mon pays, la Bulgarie, où tout le monde espérait devenir cosmonaute et s'enfuir dans des galaxies nouvelles, là où la dictature communiste ne serait pas encore inventée. Donc, ça devait donc être un texte polyphonique, où je pouvais à la fois parler de la vie de Yuri Gagarin, mais aussi de la métamorphose qu'il y a eu en Bulgarie après la chute du mur de Berlin, et un petit peu de moi aussi, et de mon chien Jockey. Je vous ai apporté une photo, comme Jockey, comme on le voit, en fait, c'était donc mon chien, et qui était très intéressé par la carrière cosmonautique. Donc j'ai créé un personnage très important dans mon roman, qui s'appelle Jockey. Voilà, donc à part ça, j'avais aussi envie de créer une structure très fragmentaire, un petit peu expérimentale, et donc voilà, qui devait s'enrichir de plusieurs alphabets exotiques, d'autres voilà, typographies différentes. Donc voilà, la mission numéro 3, c'était de faire une mise en page très très originale.
Est-ce que c'était pas la mission numéro 2 ?
Oui, bon, après l'ordre peut changer. En fait, moi, je suis pas si voilà. Et donc voilà, après ce récit devait être très très documenté et très documentaire, et il devait aussi déconstruire un certain nombre de préjugés, notamment les préjugés sur le genre. Donc ça, c'était la mission numéro 1, je ne sais plus, déconstruire les préjugés sur le genre. Alors, fortement influencé par un écrivain qui s'appelait puisqu'il il est plus parmi nous depuis quelques mois, Juan Goytisolo. Je voulais écrire un texte comme lui, comme dans Juan Santer, qui est complètement libre et explosé. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de lettres majuscules. Donc ça doit être un récit qui déborde comme ça de manière très inquiétante. Donc la mission numéro 0, c'était une poétique très inquiétante. Bon, je vais peut-être continuer par date, ça va aller plus vite. Comme ça, je parle aussi du master, puisque voilà. Comment ça s'est passé concrètement dans ces deux années. Alors, j'ai intégré le master de création littéraire en octobre 2013. Donc, en octobre, première confrontation avec le collectif. Je prends que mon texte est curieux et qu'il y a des maladresses quant à la langue française. Mes adjectifs ne correspondent pas du tout à mes compléments, ce qui est parfois drôle, oui, mais complètement incorrect dans l'ensemble. J'aimerais bien comprendre quand exactement, mais cela m'échappe. Alors, mission numéro moins 1, arriver à me faire comprendre par les citoyens français. En novembre 2013, je me rends compte que pour raconter des événements politiques, c'est toujours mieux aussi de mettre en place des éléments plus personnels. Donc, c'est là que ma copine d'enfance entre en jeu. Pour plus de sécurité, je décide de changer son prénom dans le texte. Je la nomme Constanza en espérant qu'elle ne se reconnaisse jamais. En décembre 2013, je n'arrive pas encore à trouver une linéarité de mes bouts de texte. Ce n'est pas un vrai bout à bout, c'est un four tous les bouts, c'est une horreur. Alors, je mets des petites étoiles entre les fragments, ce qui rend furieux mes professeurs.
Bon, là, t'exagères.
Non. En mission numéro moins 2, arriver à organiser mes idées. En janvier 2014, j'annonce à mon grand-père communiste émérite que je vais écrire une exofiction multimédia sur Yuri Gagarin. Donc là, il se montre très enthousiaste. Ça le sort complètement de son état d'enfermement et malgré donc, cet état, bon, il décide de traverser toute la ville et de se rendre dans la bibliothèque nationale de ce, voilà, et, de m'aider à me documenter. Et il a réussi à retrouver le journal datant de 1961, un jour après le premier vol spatial, ce qui, vu l'état de la bibliothèque nationale et de mon grand-père, était une vraie mission héroïque. C'est là que j'ai été très très touchée par cette mission, et donc je décide qu'en fait, j'étais très touchée par son rêve communiste qui était tellement important, même alors que tout s'était déjà écroulé, et qu'en fait, il fallait que je fasse un personnage plus important dans mon roman, que je nomme ton grand-père vrai communiste émérite. Alors, en mars 2014, je tombe par hasard sur une vidéo YouTube où l'on voit Sylvie Vartan. Je vais vous montrer un petit extrait. Donc, en fait, elle rentre pour la première fois en Bulgarie, qui est son pays natal, où donc, elle n'a pas pu se rendre pendant tous les 45 ans de dictature. Donc là, en fait, c'est la première fois qu'elle est là. Elle donne un concert au Palais de la Culture. Donc, elle est très, très émue. Moi, je me rappelle très bien de ce moment, puisque ça passait à la télévision. Donc, ma grand-mère était... était très émue, elle pleurait, donc moi aussi je pleurais lorsque elle, Sylvie, chantait cette chanson de Petit Nuage Blanc. Je vous la fais écouter un petit peu. Dis-moi, petit nuage blanc, chantait Sylvie, n'aurais-tu pas vu ma mère lorsque tu passais au-dessus de ma maison d'enfance, au-dessus de mon pays natal, disait Sylvie. N'aurais-tu pas entendu ma mère parler, disait Sylvie, en pleurant et en chantant, et ses larmes contenaient toute la tristesse de l'émigré, disait ma grand-mère. Alors je revois plusieurs fois cette vidéo, je me demande si ces larmes sont vraies ou si elles nous jouent un rôle. J'ajoute un nouveau chapitre dans mon roman que j'intitule « Comment ne pas devenir Sylvie Vartan ?» Alors, en mai 2014, mon texte devient de plus en plus cohérent, me dit-on. Alors, moi, je remarque qu'il devient de moins en moins expérimental et polyphonique. On me suggère d'enlever toutes mes polices différentes, car là, ça ne ressemble à rien.
Non, c'est pas vrai.
Et en juin 2014, en fait, j'écris un roman. Bon, voilà, en fin juin 2014, c'est mon anniversaire. Donc là, je reçois pour mon anniversaire divers cadeaux qui sont en lien avec la conquête spatiale. Voilà, donc par exemple, un petit robot qui peut marcher tout seul. On voit un petit caillou que Yuri Gagarin a apporté directement de la Lune. Et puis, ma mère qui me dit, bon, cette histoire de cosmonaute, c'est pas très féminin, mais je t'offre ce t-shirt. Voilà, je me dis qu'il est temps de voir à mon entourage qu'à titre personnel, je n'ai jamais voulu devenir cosmonaute en espérant de recevoir des cadeaux plus appropriés à mes goûts pour l'année suivante. Alors, en août 2014, je suis de plus en plus contrainte à inventer des petits récits fictionnels pour nourrir le texte. J'ai l'impression qu'en fait, ce projet me manipule. Au début, je voulais rendre compte d'un vrai problème, alors que là, je suis en train de déconstruire le réel. Je décide de résister à ce processus et de me documenter davantage. Et octobre 2014, deuxième année de master, mes professeurs m'apprennent l'existence du mot « subordonné » et qu'il y en a un peu trop dans mon texte. Je ne comprends pas le problème, j'ouvre Juan Goiti Solo et je me rassure, il y en a beaucoup dans le sien aussi. Mission numéro moins 3, ne pas me laisser faire par mes professeurs. En novembre 2014, on m'offre un briquet magique qui est doté d'un système parce qu'il projette sur le mur l'image, non pas d'une femme nue, je vous dis puisque souvent l'effet est déceptif, mais c'est plutôt le portrait du Premier ministre bulgare. Voilà, en fait, le Premier ministre bulgare qui en fait, a commencé sa carrière comme chef de la sécurité pendant le régime communiste. Donc, et par la suite, c'était un petit peu la crise, donc il a eu quelques affaires pas très claires avec... avec la mafia, mais bon, après, il a intégré les pompiers, puis la police, et il est devenu après maire de Sofia, et il vient d'être élu pour la troisième fois Premier ministre de la Bulgarie. Alors, voilà, d'ailleurs, j'ai trouvé une autre photo, un petit peu, je ne saurais pas comment analyser, mais très, très, très impressionnée par ce personnage, je décide de créer un personnage dans mon roman, en fait, que j'intitule « Ton grand cousin André ». Donc je continue de me documenter puisque le réel, c'est quand même important. Alors, en fin novembre, lors d'un suivi de projet dans le master, une étudiante me dit que mon écriture est simple et pop. Je trouve ça assez inquiétant. Et donc en décembre, je comprends aussi que le déconstruire le réel est en fait un jeu très plaisant. Et j'en fais ma résolution pour 2014, rapportée à 2015 car ça prend beaucoup de temps. Donc en janvier 2015, je déconstruis le réel. En février 2015, je déconstruis le réel. Et en mars 2015, je déconstruis le réel. En avril, je pars en vacances. Au Havre, je me rends à l'évidence. Toutes mes missions ont échoué. Mon écriture n'a rien à voir en fait avec celle de Juan Goiti Solo dans Juan sans terre. Moi, j'aime les phrases courtes et les points. Par ailleurs, je ne sais plus du tout quel est exactement mon style. Sentiment d'égarement et de panique. Alors, en mai 2015, je réécris 10 fois la fin. J'hésite entre une fin optimiste et poétique ou une fin concrète et très déprimante. Alors, je repense à la situation actuelle dans mon pays, je revois le portrait du Premier ministre bulgare et j'opte pour la fin triste. Même en déconstruisant le réel, il faut savoir rester vraisemblable. Et alors, juste avant ces soutenances, j'apprends que je n'aurais jamais dû acheter une imprimante au jet d'encre et que mes phrases sont effectivement trop longues, ça ne sert plus à rien de lutter. Donc je mets des points, j'enlève quelques participes présents et beaucoup de subordonnés. Je tourne le dos à Juan Goytisolo et à tous les auteurs qui ont pu m'influencer. Et ainsi, j'apprends l'émancipation en littérature. Voilà, en gros.
Merci pour cette soutenance. Je ne sais pas, Vincent.
Merci.
Est-ce que...
Moi, Elitza, ce qu'il m'importerait surtout de savoir maintenant, c'est si vous pensez que ce texte pourrait être validé tel quel par les services secrets bulgares, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait sabrer ?
Alors, je pense qu'il y a un grand petit peu de travail sur la déconstruction du réel, et ensuite, on pourrait l'envisager. Voilà.
Bon, c'était que, est-ce que ça s'est passé comme ça, en fait, ta scolarité à Paris 8 ?
Non, en fait, tout ce que je vous ai dit pendant ces 10 minutes n'était pas complètement vrai, mais ce n'était pas complètement faux non plus. D'ailleurs, j'ai vraiment eu un chien qui s'appelle Jockey. Et par contre, non, ce n'est pas vrai que j'ai été... Au contraire, j'ai été très encouragée par mes professeurs du fait que j'étais étrangère. On n'était que deux étudiantes étrangères. Et donc, ça a été tout un travail, en effet, de se permettre à écrire nos récits d'enfance sur cette autre langue. Et j'ai été d'ailleurs encadrée aussi par Maëlys de Kerangal, qui était là hier, qui prenait aussi du temps en fait, pour me voir en dehors de la fac et me dire comment je pourrais un petit peu arranger le français, mais sans que ça soit intrusif. C'était très, très bienveillant. Et j'ai surtout très encouragée par ma directrice de projet, qui était Olivia Rosenthal, qui, dès le départ, en fait, m'avait dit que le fait que je sois étrangère, ça peut être aussi très intéressant de travailler sous décalage. Et en fait, cette parole, ça m'avait beaucoup aidé à assumer quelque chose et voilà, à travailler à partir de cette différence, de cette langue qui est un petit peu ni française, qui est contaminée par un passé bulgare et tout un imaginaire et des expressions bulgares ou aussi par l'impossibilité de comprendre les expressions françaises. Et donc, ça m'a forcément aussi amené à essayer de déconstruire ça d'une manière ou d'une autre. Mais c'était en tout cas une manière aussi d'assumer cette place de cette langue qui est tout le temps dans la traduction, en fait, comme disait hier Maëlys. C'est vrai que c'est un peu aussi une autre manière de travailler, mais qui est tout le temps en traduisant. Et puis c'est vrai que moi aussi je suis arrivée à Paris 8 en 2007, mais en cinéma, puisque en fait c'était le seul endroit où on pouvait faire un master de création cinématographique à l'époque. Et là-bas on était, Jacques Neff, vous dites qu'il y avait 46% d'étrangers, mais en fait je pense moi j'avais l'impression que tout le monde était étranger. Et c'est vrai que au contraire, on était très encouragés à travailler sur nos histoires et il y avait vraiment une ouverture. Donc pour moi, Paris 8, c'est pas du tout ce que là j'ai dit de manière ironique dans cette performance, mais c'est beaucoup plus un lieu un petit peu très ouvert en fait et qui est aussi un lieu d'errance, puisqu'en fait on pouvait tout à fait prendre des cours en théâtre. Enfin voilà, moi je me suis beaucoup baladée, j'ai pris beaucoup de temps. Enfin, je m'inscrivais à la fac, je me désinscrivais, donc je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas possible ici. Je n'ai pas été une étudiante sérieuse, mais pourtant c'était un lieu qui m'a vraiment permis de devenir un peu moi-même en quelque sorte. Donc c'est ce qu'on se disait pour finir. C'est vrai que quand on dit est-ce qu'on s'intègre dans la société française, enfin c'est toujours une question qu'on nous pose. Je pense qu'on s'intègre d'abord dans une petite collectivité et dans un lieu. Et en fait pour moi vraiment le premier lieu que j'ai investi c'était Paris 8 avant d'investir une société ou quelque chose de très abstrait.
On me demande si on ne pourrait pas finir sur ça. Donc Radio Broa, c'est fini pour ce soir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Alors néanmoins, l'émission est finie, mais il y a un poste. Si y a des questions, on est là pour discuter, parce que je pense que certains ont été étudiants, par exemple, ou profs invités, ou des choses comme ça, ou d'autres qui ne sont jamais passés par Paris 8 ont peut-être envie de poser des questions. C'est libre. Dominique Biard.
Oui, il y a un point sur lequel j'aimerais bien vous entendre, qui passe de manière un peu fantomatique dans mon propos, c'est la question de la fin de Vincennes à Vincennes. Le fait que l'université soit déplacée à Saint-Denis, à la fois ça paraît une fin, une rupture, et puis en même temps on sent bien que quand même ça a continué et que le titre même de Vincennes à Saint-Denis n'est pas complètement. On aurait pu penser que déplacer Vincennes dans ces bâtiments qui avaient été effectivement construits de manière un peu rapide et à limite dégradée dans un lieu aussi symptomatique, symbolique aussi que Saint-Denis, qui est à la fois une banlieue quand même parmi les banlieues défavorisées, mais très marquée par la population très hétérogène qui s'y trouve, très cosmopolite. C'était une chance d'installer Vincennes au milieu de son public potentiel. Donc la question c'est celle-ci, qu'est-ce qui a continué, qu'est-ce qui n'a pas pu continuer, et pourquoi ce qui n'a pas pu continuer, ce qui n'a pas pu continuer à Saint-Denis.
Jacques, qui l'a vécu.
Oui, j'ai été déménagé, en effet. très rapidement, le déménagement a été une volonté de destruction et de réduction par le ministère, Madame Saunier Seyté, etc. Avec complicité de Jacques Chirac, qui disait que la ville de Paris avait besoin du territoire de Vincennes, et ils l'ont. Et puis ce fait étrange, c'est que le bâtiment, qui était du préfabriqué génial, pouvait être récupérable, et on pouvait faire des collèges avec. Et il a été rasé, comme si il n'y a pas eu de sel, mais c'était tout comme. Donc il y avait une volonté de détruire. Ensuite, on a été en effet déménagé. Il y avait d'autres options. Certains voulaient aller à Marne-la-Vallée, et ça serait devenu une université normale. On a été déménagé de force à Saint-Denis, dans des locaux construits exprès pour nous, et qui étaient inqualifiables de complexité et d'incommodité. On ne pouvait plus se rencontrer. C'était l'anti-Vincennes. C'est-à-dire que les couloirs ne correspondaient pas, les escaliers se perdaient, il n'y avait plus lieu. 80-81... Et évidemment, la gauche vient au pouvoir, donc on respire. C'est comme si on avait tout à coup un ballon d'air, ça. Mais pour répondre à la question, c'est vrai que ça a beaucoup changé. De toute façon, tout a beaucoup changé. Les réformes, ensuite, l'esprit. Mais je pense que ce qui a subsisté, c'est ce sentiment d'avoir à faire quelque chose de libre. C'est d'avoir à ne se soucier au fond que de ce que nous voulions faire. Et évidemment, ce n'était pas sans conflit non plus contre l'institution universitaire. Tu sais particulièrement que les professeurs doivent passer au Conseil national des universités, etc. Donc il y a eu un conflit permanent, mais qui s'est transposé, en effet. Et ce qui nous mettait en banlieue est devenu aussi un aspect très porteur et assez nouveau de Paris 8. Ça n'a pas pour autant empêché des gens de Paris de venir, parce que le choix entre aller à Paris 4 et Paris 8 était un choix intellectuel, un choix politique, un choix moral. Et donc ça a continué, mais évidemment ça n'a pas continué de la même manière. Ce qui a continué, c'est cet esprit de faire des disciplines quelque chose qui n'est pas figé.
Moi, je voudrais juste ajouter en un mot sur la destruction de Vincennes, que moi je n'ai pas connue. C'est très marquant, en ces jours aussi d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas une plaque dans un pays de patrimoine comme la France qui adore se rappeler, commémorer, marquer les dates importantes de son histoire. Il y a eu un documentaire que vous pouvez voir de Virginie Linhart, la fille de Robert Linhart, l'auteur de L'Établi, qui s'appelle Vincennes, université perdue. Ce documentaire a l'inconvénient de s'arrêter en 80 et donc de ne pas parler de ce qui s'est passé à Saint-Denis, alors que des gens comme Sixou ou Deleuze ont enseigné plus longtemps à Saint-Denis qu'à Vincennes. Mais il est aussi à d'autres égards très bien fait, et elle interviewe beaucoup d'acteurs de cette époque dans ce qui est une forme de clairière avec des herbes folles. Et voilà, et c'était là, et c'est absolument insoupçonnable le fait que c'était là. C'est-à-dire que quand on fait son pique-nique, son déjeuner sur l'herbe, comme Lionel le disait tout à l'heure, on ne peut pas savoir sur quelle sédimentation d'histoires intellectuelles on est en train de manger.
Et peut-être pour prolonger et pour répondre à ta question, Dominique, très directement, et en jouant sur les mots, pour moi, totalement subjectivement, hein, je dirais, c'est pas l'invention de la tradition, mais la tradition de l'invention. À Paris 8, on sent quand même qu'on est, on a des désirs de création, et ça, je pense que c'est quelque chose qui perdure, et ça bouge, hein, c'est pas forcément dans les mêmes disciplines, dans les mêmes départements, par les mêmes personnes, mais il y a toujours quelque chose de qui s'invente, quoi. Et ça, c'est quand même particulier. Et pourquoi ça s'invente ? Parce que dès que quelqu'un a une idée, globalement, on lui donne les clés. Ça a été le cas pour notre master création littéraire, hein, mais ça a été le président, le département, l'UFR, tout le monde nous a dit « Allez-y, c'est super, faites-le, on est tous derrière vous. » Et ça peut, il peut y avoir des petits conflits, mais par contre, on dit « T'as une idée, t'es responsable, tu y vas. »
Et voilà. Ça vient vraiment de l'expérience Vincennes. Enfin, moi, j'ai vu le changement, puisque j'ai été 35 ans à Vincennes. Et c'est ce qui a été sauvegardé, souvent dans des luttes très difficiles, parce qu'il y a eu des versions de retour plus traditionnelles. Mais c'est cela, c'est cette idée de l'initiative. L'idée que les choses sont discutées, sont possibles, tout est possible.
Et d'ailleurs, en discutant ensemble, on se disait que peut-être quelque chose qui était une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'une partie du vocabulaire qui fait l'esprit de Vincennes, l'autonomie, la liberté, les projets, a été détourné, malaxé et employé par les logiques néolibérales. Alors ça pose certains problèmes. Tiffany ?
Oui, je dirais juste, parce que Vincent a parlé de la destruction de la ZAD, donc de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modes, ce qu'on appelle les nouvelles manières d'habiter, ou les modes un peu alternatifs de propositions politico-communautaires, sont marqués par justement la protection, la défense, l'autonomisation, la résistance, le retrait. Alors que Vincennes, c'était quand même un lieu d'ouverture ou d'élargissement, on peut dire, ce terme d'élargissement qui peut signifier à la fois agrandissement, libération, liberté, etc. Voilà, qu'aujourd'hui, les espèces de nouvelles formes de petites émancipations qu'on essaye de trouver, elles sont dans des lieux clos, dans des cabanes, dans des ZAD. Et ça, je pense que c'est une grande différence. Mais même que ça touche aussi l'université. L'université Paris 8 aujourd'hui, les universités, donc ça a commencé à Paris 8, à Rennes, mais maintenant il y a un certain nombre d'universités touchées, elles sont, au lieu d'être des lieux d'accueil, ça, c'est des lieux retranchés. Hein, la commune de Tolbiac, c'est des lieux fermés. C'est le cas aussi dans des universités en région. Je pense que là, il y a quand même quelque chose qui a changé. Qui a changé dans toute la société.
Mais il y a un lieu d'ouverture toujours à Vincennes dans ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport aux migrants. C'est-à-dire que les étudiants de l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, ont ouvert les portes de l'université quand il y a eu la grande vague de froid en France qui est avec des températures en dessous de zéro. Et ils ont décidé d'ouvrir les portes et de donner de la nourriture, des matelas, pour que les migrants qui dormaient dehors puissent avoir un lieu au chaud et se réfugier dans un espace en sécurité. Et donc là, vraiment, Vincennes, c'était un espace d'ouverture aux étrangers, sans papier, exilés.
Saint-Denis. Oui, parce que mais nous, bon. Quand même, de la génération d'après, nous, on dit toujours Saint-Denis. Ce soir, on s'est amusé avec Vincennes, mais on n'a dit jamais Vincennes. Jamais.
Moi, j'ai jamais dit Vincennes.
Même si, par exemple, à la bibliothèque, on continue de tamponner les livres avec le tampon Vincennes. Toujours aujourd'hui, ce qui est quand même surprenant. Est-ce qu'il y a une autre question ?
C'est compliqué quand même de racheter un nouveau tampon.
Oui. Pourtant, l'administration fonctionne plutôt bien. Pardon ? Oui, je crois qu'on arrive à l'heure de la réception et on peut aller boire. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Merci.
Merci à tous.